nous faire connaissance. Moi, partez bien certain.
C'est pas du vent.
C'est ça, c'est que du vrai. Moi, partez, ça va bien.
C'est pas du vent.
À chaque jour qui passe.
Le magazine moi, de l'environnement sur RFI.
Faut pas besoin de faire doudou, à doudou, pas pleurer.
Je prends que l'exemple des gens du fleuve même, natifs du fleuve. Quand tu épousais une femme, tu avais obligation de lui faire un abattis. Aujourd'hui, les jeunes femmes te disent que bon, ben, elle n'a pas besoin d'abattis. Quand on est attaché à la terre, c'est son magasin, l'abattis. Hein, c'est son magasin, c'est son lieu où on peut s'approvisionner sans besoin de demander à qui que ce soit l'autorisation de se servir.
Pas besoin de faire doudou, à doudou, pas pleurer.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un petit coin de France perdu en pleine Amazonie, la seule région d'Europe située en Amérique du Sud. Nous vous emmenons en Guyane, à Maripasoula plus exactement. C'est la plus vaste commune de France à la frontière du Suriname et du Brésil. C'est aussi l'une des plus enclavées. Aucune route ne la dessert. Pour l'atteindre, il faut prendre un petit avion au départ de Cayenne ou emprunter le fleuve Maroni qui sépare la Guyane du Suriname. Aujourd'hui, Maripasoula est un carrefour multiculturel, mais pendant de nombreuses années, elle a été le fief des populations amérindiennes et bushinengue, les descendants des esclaves qui avaient fui les plantations. Ces deux peuples se sont adaptés à la forêt et ont développé un type d'agriculture particulier, la culture itinérante sur abattis. Brûlis. Une pratique de plus en plus difficile à réaliser à cause de la sédentarisation des populations. Mais quelles sont les autres alternatives pour cultiver dans cette zone enclavée? Comment développer une autre agriculture pour enfin parvenir à l'autonomie alimentaire tout en préservant ces pratiques ancestrales adaptées au milieu amazonien? Réinventer l'agriculture à Maripasoula, c'est un reportage d'Igor Strauss qui commence en 4x4 avec Mélie Caillot du CFPPA, le Centre de Formation pour la Professionnalisation des Agriculteurs de Maripasoula.
Là, je vous emmène chez deux agricultrices qui ont des vergers dans leur abattis. L'abattis, c'est une forme de culture qui passe par un défrichage de la forêt en amont. Après le défrichage, il y a le brûlis de la forêt pour ensuite pouvoir commencer les plantations. Et souvent, ça dure une période entre 2 et 3 ans. Et ensuite, eh ben, le sol s'épuise. Parce que dans les sols tropicaux, il y a peu de fertilité. Et lorsqu'on a tout coupé, et du coup, il faut laisser se régénérer la forêt pour de nouveau recouper dans 7 ans, voire 10 ans. C'est pas dans la recherche de la productivité. À la base, c'est vraiment l'agriculture vivrière et on récolte ce qui a poussé. Et voilà. Souvent, en fait, de plus en plus, on parle de... Pour contrer cet argument de déforestation, on dit que dans la forêt, de manière biologique, il y a des chablis. Donc, c'est les arbres qui tombent. Et lorsqu'il y a un chablis, en fait, l'abattis, ce serait un peu comme un chablis. Ça reproduirait ce côté chablis naturel. C'est-à-dire que la forêt tombe, ça dégage une bonne partie. Et après, la forêt repousse derrière.
Ah, là, on emprunte un petit sentier.
C'est tout très clair.
Et pour reparler de l'historique ouais, de l'abattis, en fait... Enfin, historiquement, c'est le peuple amérindien qui était en Guyane française. Et du coup, c'est les Amérindiens qui ont pratiqué cette agriculture en premier. Ensuite, avec l'esclavage et la fin de l'esclavage, ou surtout le fait que les esclaves s'échappent des cultures, surtout au Suriname, donc l'ancienne Hollande et au Guyana, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça en Guyane. Attendez. Je vais surtout passer en mode 4x4. Voilà. Et pendant l'esclavage aussi, lors de la fuite des esclaves des plantations, les bushinengue, ce qu'on appelle, donc c'est le peuple de la forêt. Bushi, en fait, ça veut dire forêt. Ils se sont réfugiés donc sur le haut Maroni, donc le fleuve qu'il y a au bord de Maripasoula.
Et qui sert de frontière justement avec le Suriname.
Voilà. Et donc le peuple amérindien en fait a appris à la population Bushinengue à faire la bâtie sur brûlis et à faire cette forme d'agriculture. Donc les Bushinengue ont repris et ont un peu aussi fait à leur façon maintenant. Et c'est maintenant ils ont ça en commun aussi, les Amérindiens et les Bushinengue. Voilà.
Moi, je m'appelle Bernadette Alimani et je travaille sur l'abattis, je suis agricultrice. Et voilà, on va visiter mes abattis.
Alors, ça représente quoi les abattis pour vous ?
Ben, ça représente beaucoup pour moi, hein, parce que comme j'aime tout ce qui est travailler sur la terre, c'est ma passion. Depuis toujours, depuis mes ancêtres, mes parents, on a tout le temps vécu de l'agriculture et de la pêche. Et c'est des transmis des générations en générations.
Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui par rapport au temps de vos parents, de vos grands-parents ?
Oui, parce qu'avant on était des nomades, hein. On allait de terre en terre, c'est-à-dire quand la terre n'était plus fertile, on se déplaçait. Mais tandis que maintenant, on reste sur le même abatti.
Vous avez connu ça, ce nomadisme à...
Ben oui. Hein? Oui, parce qu'avant, ici, c'était mes arrière-parents qui cultivaient ici. Et après, ils sont partis. Ils sont partis refaire d'autres villages. Et du coup, après quelques années, c'est moi qui ai repris.
Et donc, vous avez décidé de vous sédentariser, de vous installer à un endroit précis ?
Oui. Oui.
C'était un choix ou c'était par nécessité ?
Pour moi, c'était pour... Le fait d'être ici, pour moi, pas loin de la ville aussi, pas loin de Maripasoula et de voir un peu aussi l'évolution et rester toujours abatti.
Mais du coup, c'est un gros changement quand même.
Oui, c'est un grand changement parce que quand on fait l'abatti, c'est plus comme avant. Les enchères, il faut attendre 5 ans ou 3 ans, tandis que maintenant, on va retravailler la même terre.
Donc je les mets maintenant les bottes, c'est ça ? Là on est en pleine forêt, c'est un peu humide et j'ai pas pris mes bottes moi.
Attention.
Ceci dit, elles sont pas 100% étanches les bottes. Hein.
Ah ouais.
Okay. Manio.
Ça manio.
Oui. C'est une deuxième brûlis, on va dire, deuxième culture. Et là, ça, tu vois, la terre, ça pauvrit.
Et donc ça, la première culture, c'était il y a combien de temps ?
On va dire 5 ans.
Vous avez tout brûlé ici il y a 5 ans ?
Oui.
Et là, vous en êtes à la deuxième culture ?
Oui. C'est une rotation un peu plus courte qu'elle a mis en place. Mais qui a un peu ses limites, parce que 5 ans, c'est pas assez pour refertiliser quand même le sol.
Et donc, vous, en tout, vous avez combien d'abattis alors ? Il y a celui-là ?
Oui, on est sur la première montagne et j'ai un autre sur la deuxième montagne.
C'est un gros travail, hein, les abattis, quand même, non ?
Ah oui, c'est un gros travail, hein, c'est fou.
Vous êtes seule à cultiver ou votre mari vous aide ou...
Oui.
Vous êtes combien ?
Il y a mon mari, il y a ma mère, mes parents qui viennent. Il y a ma fille aussi pendant les vacances. Elle vient m'aider. On fait tout, on porte
à la main.
Oui. Vous devez descendre toutes les collines avec le manioc ?
Oui, toutes les collines. C'est un gros travail.
Et la production de manioc, elle vous permet de vivre combien de temps ?
Ben, toute une année. Hein.
Et vous en vendez aussi ou c'est que pour vous ?
Oui, j'en vends aussi. Là, on est vers la fin du plateau. Et on ira sur l'autre montagne. Ici, c'est ma deuxième abatti.
Ce qu'on voit là, juste là, à 10 mètres ?
Oui.
Ah là, on voit qu'il y a des gros troncs d'arbres dans au milieu, là. Hein.
Attention, c'est un bois qui est tendu.
Ici, ça, c'est tout nouveau, cette partie de l'abatti ?
Oui, c'est tout nouveau, c'est ma première culture.
Donc, vous avez brûlé quand ?
L'année dernière.
Et du coup, vous avez planté quoi ?
Il y a des abricotiers, il y a des dachines, Il y a des cannes à sucre. Dans cet abatis, on a un peu mélangé bananiers, tout. Des ananas. D'habitude, c'est, comme vous avez vu, c'est que des manioc, que des trucs. Et là, on a juste voulu tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Un peu de patates douces aussi par là. Là, c'est très diversifié.
Et pour l'instant, ça donne quoi alors?
Ben, pour l'instant, moi, je suis très contente. Hein. Je pense qu'on va faire un bon récolte. Oui. Ben, tout ce que je vois, ils sont costauds.
Ah, donc ça se traduit concrètement, quoi. Un abatis d'un an,
oui.
La terre est fertile, tout pousse.
Oui, tout pousse.
Puis un ancien, c'est plus délicat.
Oui. Par exemple, quand on voit que la terre n'est pas une bonne terre pour le manioc ni pour les autres légumes ou arbres fruitiers, tout va tomber ou tout va être jaune, quoi. Peut-être aussi parce que des fois c'est le soleil qui a tellement tapé parce qu'on n'arrose pas. Ici c'est abattu brûlis. On n'arrose pas, on laisse la nature faire. On va continuer à faire le tour.
Pour comprendre l'histoire des abatis, remontons un peu le temps. D'après les chercheurs, l'homme serait arrivé en Amérique il y a environ 15 000 ans par le détroit de Bering. Les plus anciennes occupations de l'Amazonie datent, elles, d'environ 8 000 ans et celles de la Guyane de 5 000 ans. Pendant quelques milliers d'années, les Amérindiens ont donc été les seuls habitants de l'Amazonie avec une population estimée à 10 millions de personnes par certains démographes avant l'invasion européenne et le choc microbien qui décima 90% de cette population. Du coup, un grand débat a lieu entre les archéologues. Comment les Amérindiens sont-ils parvenus à nourrir un si grand nombre de personnes? Certains estiment qu'en raison de la pauvreté du sol amazonien, les Amérindiens devaient vivre en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. D'autres estiment en revanche que l'homme étant capable de s'adapter à son milieu, les Amérindiens ont dû créer des sociétés structurées et développer l'agriculture. Guillaume Audon, chercheur au CNRS dans l'unité LAISA, Laboratoire Écologie, Évolution et Interaction des Systèmes Amazoniens, une unité mixte de recherche entre l'Université de Guyane, l'IFREMER et le CNRS.
Depuis quelques années, le débat penche très clairement vers l'hypothèse de grosses sociétés structurées. Le problème de l'archéologie en Amazonie, c'est que contrairement aux Andes, contrairement à ce qui se passe au Mexique ou en Égypte par exemple, il n'y a pas de vestiges lithiques. On ne trouve pas des pyramides en pierre, on ne trouve pas de temples. Donc l'essentiel de la culture matérielle amérindienne étant à base de plantes, on fait des maisons en bois avec des toits en feuilles, la plupart des objets sont faits à partir de calebasses, de fibres de palmier, de bois, de coton. C'est que de la fibre végétale, ça laisse aucune trace. Et du coup, faire de l'archéologie dans un monde du périssable, c'est très très compliqué. Et les seules choses que l'on retrouve vraiment, ce sont les céramiques et les modifications du sol. Et c'est vraiment là que, depuis 25 ans, les équipes brésiliennes essentiellement, ou des équipes internationales qui travaillent au Brésil, ont montré qu'il y avait eu, sur des zones qui font parfois plusieurs dizaines d'hectares, des modifications majeures de la structure du sol, et notamment un enrichissement. Et c'est ce qu'on appelle les Terra Preta do Índio, la terre noire des Indiens, au Brésil. Et ces zones de terre noire, elles font parfois plusieurs mètres d'épaisseur. On arrive dans certains coins de la région de Santarém jusqu'à 2 mètres d'un sol modifié, vraisemblablement par l'agriculture. Donc toute la question tourne autour de comment est-ce que ces populations, qui visiblement étaient des populations nombreuses, ont pu modifier leur milieu de manière aussi intense et avoir une agriculture durable. Parce que les sols amazoniens, c'est des oxysols qui sont très très pauvres et qui se prêtent mal à l'agriculture. Et c'est du coup les deux réponses possibles, c'est soit on transforme le sol, soit on fait ces petites agricultures sur brûlis rotatives où on change tous les deux ou trois ans de site agricole. Du coup, ce qui a été l'autre alternative, c'était les petits abatis. Et ça a été observé par un certain nombre de chercheurs très tôt, on va dire, sur le début du XXe siècle, il y avait encore quelques groupes qui fonctionnaient avec des objets lithiques, des haches de pierre. Et il y a vraiment, là, c'est des tout petits abatis où on profite au maximum d'ouverture naturelle et on essaye de les faire durer le plus longtemps possible. Du coup, le débat, Le débat, il tourne vraiment autour de tout ça. Comment l'agriculture s'est implantée en Amazonie, et puis c'est quelque chose qui a dû être polymorphe, avec peut-être des petits abattis à une certaine époque, d'autres surfaces plus grandes. Ça, c'était vraiment pour la partie, on va dire, forestière de l'Amazonie. Et dans les marges, donc que ce soit en Bolivie ou dans les savanes côtières des Guyanes, on a observé, notamment avec les travaux de l'archéologue Stéphane Rostin, des structures, des buttes, qu'on a appelées des champs surélevés, et qui sont vraisemblablement des structures agricoles. En fait, dans ces zones humides où il n'y avait pas de forêt, on estime qu'à l'époque où elles ont été mises en œuvre, il n'y avait pas de forêt sur ces zones-là, pour éviter que les cultures ne soient affectées par un excès d'humidité, le jeu était de faire des monticules avec de la terre, et du coup de planter sur ces monticules, qu'on fertilisait aussi avec des céramiques ou des restes végétaux, et du coup la terre prélevée pour faire ces monticules formait des petits canaux qui permettaient à l'eau de circuler entre ces monticules. Et toutes ces zones-là, donc ces zones de champs surélevés, permettaient vraisemblablement de nourrir une population importante dans les marges amazoniennes.
Donc ça signifie qu'il y avait vraiment un vrai savoir ancestral?
Plus qu'un savoir ancestral, je dirais une panoplie de savoirs adaptés au milieu. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise les sociétés amazoniennes, c'est qu'elles sont très plastiques, elles ont des formes d'adaptation à leur milieu qui sont extrêmement fines, et on le voit bien, par exemple, aujourd'hui, dans un abattis d'un hectare, le sol ne va pas être uniforme. Les dames qui choisissent les cultures à mettre dans cet hectare, elles vont mettre, tiens, la patate douce dans cet endroit parce que la terre est plus sableuse, le manioc plutôt là-bas. Enfin, il y a vraiment un savoir fin du sol, des ressources hydriques, de tout ça. Du coup, tous ces savoirs, ils se transmettent. Après, la question aujourd'hui, c'est vers quelle agriculture on va, vers quelle agriculture eux vont. Mais ça, c'est des questions donc, qui sont plus ce que vous avez dû constater autour de Maripasoula.
Je m'appelle Marie Fleury et je suis chercheur en ethnobotanique au Muséum national d'histoire naturelle. Alors les abattis, c'est ce qu'on peut appeler des marqueurs culturels, parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont tous un peu identiques, il y a énormément de manioc, ici c'est vraiment la culture qui domine. Mais en réalité, quand on va un petit peu plus loin dans l'étude de l'abatti, on se rend compte qu'il y a des plantes qui sont spécifiques à certaines cultures. Alors je peux vous donner l'exemple du coton par exemple, parce que le coton, vous savez que c'est une plante textile qui est très importante, notamment pour fabriquer les hamacs et les porte-bébés amérindiens. Donc dans un abattis amérindien, vous verrez des pieds de coton. Vous verrez aussi du tabac. Le tabac est essentiel dans le chamanisme, hein, qui est vraiment la structure vertébrale des sociétés amérindiennes. On va voir des plantes à usage technologique ou tinctorial qui vont être cultivées parce que on en a besoin pour faire de la vannerie, pour faire des cordages, donc des textiles ou des couleurs pour justement colorer les brins d'arrouement, pour faire des vanneries, etc. Donc on a vraiment un certain nombre de plantes comme ça qu'on peut vraiment distinguer du coup l'origine culturelle des gens qui cultivent ces parcelles.
Et finalement, c'est une grande biodiversité donc qu'on retrouve dans tous ces différents abattis.
Il y a une extrême richesse, une grande richesse au niveau de la diversité. Alors, en termes d'espèces, hein, mais aussi en termes infraspécifiques, ce qu'on appelle infraspécifiques, c'est les variétés, ou on peut dire des clones pour le manioc. Vous savez que c'est une espèce qui est multipliée par voie végétative, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les graines pour semer le manioc. On va utiliser les tiges de manioc qui sont enfouies dans la terre et qui vont redonner un individu identique. Et c'est vrai que quand j'avais fait mes études dans les années 2000, j'avais inventorié pas moins de 100 variétés différentes chez les noirs marrons et au moins 65 chez les Wayana. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est quand on travaille sur l'origine de ces variétés, où finalement ça retrace quasiment un chemin de vie, quoi. On a des vieilles femmes amérindiennes qui vous montrent « Ah, cette variété, je l'ai ramenée quand je suis allée sur le Jari voir ma famille. Ah, ben celle-ci, je l'ai récupérée sur le Yapok quand je suis allée voir famille Wayampi, etc. Ou alors celle-ci, ah ben ça c'est une variété qui est d'origine Aluku. » C'est vraiment passionnant parce qu'en fait, à travers un abattis, on peut aussi retracer un chemin de vie et tous les liens sociaux que la personne a pu avoir aussi à travers son activité d'agricultrice, quoi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement riche. Alors si, évidemment, à première vue, l'abatis apparaît très limite homogène parce qu'on n'y voit que du manioc. Quand on se penche de plus près, c'est une véritable mine de biodiversité.
Dans les années 2000, l'agriculture itinérante sur abatis brûlis a été la cible de nombreuses critiques. On l'accusait notamment de favoriser la déforestation. Un argument qui ne tient plus aujourd'hui. Guillaume Audon, chercheur au CNRS.
Une des questions qui fait débat au sujet des abatis, c'est leur durabilité environnementale, leur soutenabilité environnementale. Il y a eu des rapports pour, des rapports contre, etc. Aujourd'hui, une des questions qui mérite d'être creusée, c'est celle du bilan carbone d'un abatis. Clairement, déforester 40 hectares de forêt pour planter de l'ananas ou du soja, ça n'est pas soutenable, ça rejette du carbone, etc. Il faut savoir qu'une forêt, quand elle pousse, sa phase de croissance fait d'elle un puits de carbone, et puis à partir du moment où elle est à l'équilibre, que c'est une forêt mature, le bilan est beaucoup plus mitigé. On ne sait pas vraiment si elle capte tant de carbone que ça, ou si elle n'aurait pas tendance à en relarguer. C'est encore des champs scientifiques qui font aussi débat. Par contre, sur donc des très grands abatis qui durent longtemps, on n'est pas sûr que ça ait un effet favorable sur la capture de carbone, mais une hypothèse actuelle serait que des petits abatis, qui soient donc avec des périodes de jachère assez longues, auraient tendance à être plutôt des puits de carbone, puisqu'en fait, la forêt elle est sur une phase de croissance rapide pendant 10-15 ans, on l'abat, elle est brûlée, donc c'est du carbone qui a été pris dans l'atmosphère, qui est relargué dans l'atmosphère, mais tout le carbone n'est pas relargué, puisqu'il y a beaucoup de charbon qui vont rester dans le sol et qui vont donc être capturés par les sols. Sur ces sols qui deviennent un peu plus fertiles, il y a une nouvelle repousse forestière, donc encore une fois sur des modalités de capture rapide de carbone. Et si on refait un abatis 15 ans plus tard, ben on continue à enfouir du carbone dans le sol. Donc ça pourrait être des pratiques qui sont extrêmement intéressantes. La forêt génère de l'oxygène, on pourrait aussi considérer qu'en fait elle stocke profondément dans son sol du carbone, et ça c'est intéressant pour les générations futures.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en Guyane, à Maripasoula, au bord du fleuve Maroni. Si les Amérindiens sont les premiers à avoir développé l'agriculture itinérante sur abatis brûlis, les Bushinengue, les descendants des esclaves qui se sont échappés des anciennes plantations du Suriname, l'ont également adopté. C'est même devenu une tradition, une partie intégrante de leur culture. Retour donc dans un abatis avec Mélie Caillot du CFPPA, le centre de formation pour la professionnalisation des agriculteurs de Maripasoula.
Ah, vous avez pris la machette au cas où ?
Oui, parce qu'on est aussi avec une spécialiste des maladies, des plantes et tout. Et du coup, on en profite à chaque fois qu'on fait une sortie, parce que c'est vrai que les abatis sont assez loin. Donc à chaque fois qu'on fait une sortie pour différents contextes, on en profite pour prendre quelques agriculteurs avec nous. Et puis en même temps, on peut faire du conseil un peu technique avec eux. C'est toujours bon à prendre.
Donc c'est vous la spécialiste des maladies des plantes ? Je vous laisse vous présenter.
Donc, je m'appelle Laura Demat-Pellors. Je suis cofondatrice d'un organisme qui s'appelle Protect Belge. Et on propose en fait de l'accompagnement pour les agriculteurs pour diagnostiquer les maladies et les différents nuisibles des plantes cultivées. Et on fait également, donc pour le service de l'État, de la surveillance du territoire. Où là, on va être plus dans la détection la plus précoce possible de nuisibles émergents, donc qui seraient arrivés accidentellement, par exemple des pays frontaliers, et qui peuvent mettre en danger une filière agricole. Donc on fait vraiment ces deux aspects, l'aspect conduite de culture, gestion sanitaire en routine, et détection, surveillance biologique. On appelle ça la surveillance biologique de manière générale.
Parce que là, typiquement, donc là on est dans un abatis,
C'est censé être un écosystème protégé, vierge de toute maladie, normalement, non?
Alors, quand on est dans la bâtie, on est pile poil à la frontière entre l'écosystème naturel et l'écosystème cultivé. C'est un peu une erreur de langage, mais le système cultivé, on va dire. Le système cultivé, ça veut dire qu'à un moment donné, on va concentrer des espèces végétales qui naturellement ne seraient pas aussi nombreuses au même endroit. Et du coup, la nature va faire en sorte que les occupants de ces espèces vont être plus présents. Voilà, c'est un insecte ravageur. Tant qu'il y a quelques ananas, par exemple, il va en avoir un ou deux pour manger les deux, trois ananas qui se promènent. Mais s'il y a 50 ananas, il va venir. Et là, pour lui, c'est plutôt la fête. Il y a à manger, il y a le gîte et le couvert, si on peut dire ça comme ça. Donc, il va se multiplier. Et le système naturel sera moins présent, puisqu'on sera sur une parcelle cultivée. Donc les agriculteurs de Maripasoula et de manière générale pas mal de communautés agricoles de Guyane sont sur ces problématiques-là, en fait. On n'est plus dans un milieu naturel. On est en train...
Et c'est pour ça qu'un bâti ne dure que 2-3 ans, c'est ça?
Donc ça fait partie de la rotation. Ce qu'on appelle la rotation, c'est aussi pour prévenir en fait, ce type de problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, on va couper le cycle des nuisibles, ils n'auront plus d'hôtes, donc ils vont disparaître. La rotation et donc le fait de changer d'endroit, par exemple pour la bâti, c'est aussi hyper important en matière de fertilité. La fertilité dans la forêt, elle s'entretient par le cycle de la matière organique. Les arbres qui poussent, les feuilles qui tombent, qui se décomposent, qui font de l'humus, et ça fait un cycle, et les plantes repoussent dessus, etc., etc. Ce mécanisme est aussi stoppé quand on met en place un système de culture. Donc les agriculteurs vont devoir trouver quelque chose pour entretenir en fait cette fertilité autrement que par le système des arbres, puisqu'ils ont été coupés. Donc ça va être des amendements, des engrais verts, etc. Les techniques, on les connaît. Mais eux, maintenant, il faut qu'ils se les approprient, parce qu'ils sont en train de passer de la bâtie à un système semi-agricole, voire complètement agricole, quoi.
Moi, c'est Chloé, c'est mon abati. J'ai déjà travaillé 10 ans par ici.
Qu'est-ce que vous faites pousser en ce moment-là?
C'est l'aubergine, les concombres, les piments aussi. J'ai planté les avoutiers aussi.
Vous exploitez le même abati depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que vous avez changé les cultures, pour faire une rotation?
Oui, c'est ça, parce qu'avant, quand on a coupé un abati, brûlé, c'est pour le manioc. Et après, on peut mes avoutiers aussi, après avoutiers les légumes, parce que pour les manioc, ça ne pousse pas bien quand on a déjà travaillé des années déjà. S'il faut travailler, il faut laisser 8 ans pour les manioc.
Et alors avec ça, avec cet abati, vous pouvez faire vivre toute votre famille, vous pouvez vendre aussi. Qu'est-ce que ça vous permet de produire finalement?
Non, on ne peut pas vivre avec ça, toute ma famille, parce que ça ne donne pas beaucoup de choses, mais peut-être après.
Ah. Vous venez souvent ici pour travailler?
Pour travailler ici, on ne peut pas venir souvent parce que pour la voiture, là, c'est très cher. L'argent.
Bah, du coup, c'est ça que j'allais vous demander. C'est vrai qu'on est quoi, 10 minutes, un quart d'heure de route de piste de Maripasoula, le gros bourg. Du coup, c'est un problème pour vous, ça, cette distance?
Oui, c'est distant pour la bâtie parce que peut-être on peut gagner un peu de l'argent si on était dans la bâtie. Mais quand toujours il faut prendre la voiture à 40 euros pour venir ici, pour travailler, pour un jobber, et on perd de l'argent.
Mais alors du coup, vous allez garder cet abati ou vous allez tenter d'avoir une petite parcelle plus proche du bourg de Maripasoula?
Et peut-être moi, je vais faire un quart d'heure ici pour rester là, travailler.
Donc un quart d'heure, en fait, c'est une cabane, quoi, en fait.
Oh oui, pour replanter les légumes. Peut-être après, j'amène le poulet ou les cochons et puis rester dans la bâtie. Pour surveiller aussi les gens qui viennent voler.
Il y a beaucoup de voleurs?
Oui, quand j'ai bien nettoyé, ils voient qu'il y a des ananas, il y a des corossols, ils viennent le prendre. C'est pour ça que quand tu viens, tu ne peux pas prendre les choses pour vendre, pour gagner l'argent.
Ah.
Avec la sédentarisation, les problèmes de distance sont l'autre souci majeur. Les abatis sont exploités plus longtemps, le temps de jachère est plus court et les sols s'appauvrissent. Damien Dévy est anthropologue au CNRS et coordonnateur de l'Observatoire au milieu Oyapok.
Ces abatis, quand on a de la place, quand on a libre accès à la forêt, on n'a pas trop de contraintes. Aujourd'hui, on a des contraintes de croissance démographique, puisque je rappelle que certes, il y a eu beaucoup de monde en Amazonie à une époque, mais le choc microbien lié à la colonisation a fait qu'il y a eu un décru démographique drastique de 90% dans plein d'endroits. Donc du coup, pendant longtemps, il n'y avait plus grand monde. Aujourd'hui, il y a des croissances. À Maripasoula, on a une croissance démographique faramineuse. Et on a, du coup, des changements dans les pratiques agricoles. Par le fait qu'on ouvre des plus grands abatis, puisqu'il y a beaucoup de monde, avec des rotations qui, petit à petit, disparaissent. Et là, tout est le problème, puisque la productivité n'est plus la même. Donc du coup, on arrive à quoi? On arrive à l'introduction d'intrants chimiques, alors que je rappelle, l'abatis est vraiment bio.
Y a pas bio, de... circuit court, c'est l'idéal de l'agriculture d'aujourd'hui, en fait.
C'est ça. C'est pour ça que quand on entend que c'est pas rentable, quand on entend que c'est dépassé, moi je bondis, parce que c'est une des meilleures agricultures adaptées au sol spécifique de l'Amazonie et à la forêt amazonienne. C'est des circuits courts, c'est de l'autoproduction, l'impact carbone est très faible, et puis on est sur une agrobiodiversité assez extraordinaire. Donc là, on est sur le maintien de pratiques de savoirs paysans, hein, littéralement, qui sont d'une richesse extraordinaire, qui véhiculent un savoir sur la nature, une conservation de cultivars qui ont été sélectionnés sur des milliers d'années par le génie agricole de l'homme, des Amazoniens, comme ça s'est fait un peu partout dans les Amériques, de l'autoproduction. Donc là, en plus, dans un pays comme la Guyane, avec un fort taux de chômage, on est quand même sur de la consolidation alimentaire, sur des apports nutritifs qui sont indispensables. Si on arrête cette agriculture-là, mais les gens, ils vont être encore plus dépendants des produits d'importation. Et donc là, il y a un gros problème. Alors qu'on devrait justement valoriser cette agriculture, certes, qui peut très bien côtoyer d'autres types d'agriculture, on est bien d'accord. Mais pour la production d'aliments locaux, là, il y a des cartes à jouer. Parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu, c'est produire localement pour nourrir la Guyane. La Guyane n'est pas autosuffisante, on importe beaucoup trop de produits alimentaires de métropole, donc il y a la place en Guyane pour qu'il y ait des productions et des consommations locales.
Ça
va m'arranger.
Bonjour monsieur.
Bonjour, moi je m'appelle Machine Gaston, il y a Maïké, ma compagne, qu'on travaille ensemble. C'est juste un petit potager qu'on essaie de réaliser pour que si ça va marcher normalement, ça marche.
On a pas bah là, en tout cas, il y a des très belles salades, il y a des tomates.
Ce n'est pas des salades, c'est des choux chinois qu'il y a.
Ah, c'est des choux chinois, pardon.
C'est des choux chinois, les laitiers sont par là-bas. Là, il y a mes semis là, que j'ai en train d'attendre pour replanter.
En fait, le semis et tout, puis alors, le fameux chou chinois, il est sous serre finalement, vous avez créé une serre.
Oui, on a créé une serre au niveau de la pluie, lorsqu'il y a beaucoup de pluie, les feuilles, ça vient comme ça, tu vois. Ça vient un peu comme ça.
Ah ouais, elles se couchent et elles fanent.
Lorsqu'ils sont comme ça, c'est-à-dire, c'est à cause qu'il y a trop d'eau. Mmh. On essaye toujours pour voir quel résultat qu'on va avoir.
Hein. Donc en fait, vous aviez un abatis avant, c'est ça?
Oui, moi j'ai des abatis traditionnels et des hectares de fruitiers.
Mais ça ne suffisait pas?
Non, ça suffisait, mais c'est-à-dire que comme la piste n'est pas bonne, on n'a pas l'accès d'aller tout le temps. Et là, on est obligé de tenir les coups ici. Comme je n'ai pas un autre travail fixe, ça c'est mon travail en plein temps. Mais ce n'est pas suffisant.
Et alors, c'est quoi les principales difficultés
qu'on a
quand on fait du maraîchage ou de l'agriculture ici à Maripasoula?
Les difficultés qu'on a à Maripasoula, que moi je travaille avec du fumier de poule.
Mais du fumier de poule qui vient d'où? Qui vient d'ici de Maripasoula ou qui vient du Suriname en face?
Non. Et puis les fumiers de poule que j'achète, une sac comme ça, je l'achète en 6 euros. Pour moi ça vaut le coup. Mais pour bien faire l'agriculture à Maripasoula, il faut faire l'élevage. Pour faire grand volume, il faut avoir un poulailler. Élever des poules, et sinon t'as pas assez d'engrais.
Et ça justement c'est un problème l'élevage ici, d'avoir accès au fumier?
Ouais, à un moment donné j'avais des poules, mais comme tu sais pourquoi j'ai arrêté? J'avais un souci au niveau des transports, parce que tu payes un sac de 50 kilos à Serouan, et les transports ça te coûte 20 euros.
Ça, comme Maripasoula, c'est très enclavé, tout passe par le fleuve. C'est un coût supplémentaire pour que ce soit l'élevage ou l'agriculture, tout. Non, c'est un vrai problème, ça, le transport des...
C'est un grand problème parce qu'on n'a pas de route. Déjà, c'est une première base. Il faut soit dans la pirogue, soit par avion. Et un kilo par avion, ça te fait 2,50 €. Tu ne peux pas acheter 50 kilos à 2,50 €. Combien ça te fait ? Beaucoup d'argent.
Mais justement, je reviens un petit peu à la particularité guyanaise.
Oui.
Est-ce que des fruits comme le maracuja ou le fruit de la passion, tout ça, c'est des fruits qui sont reconnus comme des fruits français, donc qui pourraient bénéficier d'une aide ou pas ?
Pour bénéficier d'une aide, il faut avoir 1 hectare, 2 hectares plantés. Là, c'est trop petit. Si tu dis que tu fais 50 mètres carrés, et qu'est-ce qu'ils vont, regarder dans les dossiers ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, il est dit à ces gars-là, il est pas, il a quelque chose qui ne va pas.
Petit comme projet, en fait. On parlait la dernière fois de...
Oui, alors Mélicaillot, pardon.
Que les aides ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui se passe sur le territoire. C'est aussi des choses par rapport aux surfaces. Rien que ça, ça ne correspond pas. Quoi. Les aides européennes ne sont pas bien dimensionnées par rapport à ce qui se fait en Guyane.
Mais justement, alors je reviens à la question que j'ai posée à monsieur. Oui. Est-ce que vous pensez que justement la politique agricole commune, ce qui est fait sur le continent, en Europe, a pris la particularité guyanaise en compte ?
Non, je ne pense pas. Par exemple, le fait que tout pousse très vite, ça demande énormément d'entretien et du coup, on ne peut pas forcément faire une surface aussi grande que ce qui se fait en Europe parce que l'entretien est beaucoup plus compliqué. C'est pas forcément que les exploitations sont plus petites, c'est que par exemple les abattis brûlis traditionnels, c'est des grandes exploitations parce que quand ils font des demandes foncières, ils font des demandes sur 5, 10 ou 15 hectares. Parce que justement, dans la pratique de l'abattis brûlis, il faut beaucoup d'hectares parce que pour faire cette fameuse rotation. Et du coup, les aides, c'est en fonction des hectares. Et l'Union européenne, la PAC, se dit « Bon, si vous avez 15 hectares, vous allez produire énormément parce que c'est beaucoup de surface, donc il va y avoir beaucoup de production. » Mais en fait, ici, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'hectares, mais il n'y a qu'une petite partie au final de ces hectares qui est vraiment exploitée et c'est pas non plus de la grande productivité. Donc en fait, c'est ça, c'est la densité et la productivité qui est très, très différente parce qu'on parle en fait d'exploitation de grande surface, mais de petite productivité.
Bref, on arrête là ?
On arrête là.
Ok.
Passer d'un abattis traditionnel à une agriculture plus classique n'est pas simple. Or, les agriculteurs de Maripasoula sont livrés à eux-mêmes, coincés entre une pratique ancestrale de plus en plus compliquée à réaliser, l'abattis brûlis, et la difficulté de pratiquer une autre agriculture en raison de l'enclavement de la commune. Mais depuis 2012, ils bénéficient de l'aide du CFPPA, le Centre de formation pour la professionnalisation des agriculteurs de Maripasoula. Financé par l'Union européenne, ce centre fait partie du lycée agricole de Matiti, situé à Makouria, sur le littoral, non loin de Cayenne. À Maripasoula, plus qu'ailleurs, la professionnalisation des agriculteurs est une vraie nécessité pour redynamiser l'économie dans un contexte de fort taux de chômage et d'insécurité alimentaire. Mélie Caillot, du Centre de formation pour la professionnalisation des agriculteurs de Maripasoula.
Comme tout changement, en fait, il y a toujours cette tradition qui perdure. Et en même temps, nous aussi, on leur a fait un peu changer la vision en leur apportant de nouvelles techniques et de la diversité. Et aussi, ils le voient par rapport à ce qui arrive du Suriname. Ils voient des légumes, des tomates, des aubergines, des choses comme ça. Et en fait, de plus en plus, ça a changé l'alimentation des personnes. Et donc, ils ont envie aussi maintenant d'acheter ces produits et du coup d'en produire. Et ils voient que ça marche aussi, il y a une demande des consommateurs par rapport à ces produits. Et donc ils vont dans ce sens, mais on se confronte énormément à tous ces problèmes logistiques par rapport au transport, par rapport à l'accès à l'eau, par rapport au fait qu'ils ne sont pas tout le temps sur leurs exploitations parce qu'elles sont loin et du coup ils peuvent se faire voler souvent. Et donc ils sont ouais, vraiment entre deux, quoi, entre vouloir se diversifier et vouloir se professionnaliser pour vendre et en même temps vraiment garder cette tradition de l'abattis pour le manioc qui est encore la base quand même de l'alimentation.
Mais très concrètement, en termes de formation, de savoir-faire, qu'est-ce que vous leur apportez? Quels sont leurs besoins?
On axe vraiment nos formations sur des techniques d'amélioration de la fertilité des sols pour une culture sédentaire. Et donc après, c'est plein de légumineuses qui captent l'azote de l'air et donc qui peuvent apporter plus de vitamines. C'est comme ça qu'on appelle ici tous les oligo-éléments ou l'azote, le phosphore, etc. On appelle ça les vitamines. Et donc faire des plantes de couverture aussi par rapport à l'enherbement, parce que ça c'est vraiment un gros problème aussi dans les abattis. C'est pour ça qu'ils changent aussi assez régulièrement, parce que très très vite c'est enherbé. Parce que c'est énorme le travail dans une parcelle en milieu tropical, parce que tout pousse tout le temps. Et ensuite, c'est toujours lié à la fertilité, le développement de l'élevage. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui manque ici et on a besoin d'apport un peu de fumier, parce que c'est un ensemble, l'agriculture va avec l'élevage aussi.
Et pourquoi il n'y a pas d'élevage ici?
Là, maintenant, c'est le fait que ici, pour faire venir les animaux, ça reste assez compliqué encore. Donc voilà, il y a plein de petites problématiques qui sont vraiment liées au contexte assez seul de Marie-Passoula, quoi.
Son enclavement.
Enclavement, voilà.
Autre problème lié à l'enclavement de Marie-Passoula, l'accès au marché. Les habitants sont encore dépendants des produits du Suriname voisin, des produits souvent pleins de pesticides. Stécina Kiki est animatrice de la filière agroalimentaire au parc amazonien de Guyane.
Aujourd'hui à Marie-Passoula, on a une population grandissante, donc il y a de la demande. Donc il y a un marché identifié qui veut des produits transformés, qui veut des jus de fruits et autres. Maintenant, on n'a pas de lieu de vente à proprement parler, c'est-à-dire de marché en tant que lieu. Et la mairie a un projet, donc la commune de Marie-Passoula a un projet pour faire un marché, on va dire, couvert. Mais pour l'instant, ils sont encore dans la phase des travaux. Donc aujourd'hui, actuellement, il y a quelques petites boutiques, il y a des supérettes aujourd'hui qui vendent des produits. Mais pour les producteurs, l'accès au marché est compliqué. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de les accompagner petit à petit à la commercialisation. Ceci se traduit par déjà, essayer de rassembler déjà des producteurs, savoir ce qu'ils ont comme production et faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Les producteurs souffrent du fait que tous les produits qui sont vendus à Marie-Passoula viendraient du Suriname. Sauf qu'en fait, la législation est différente qu'en Europe, donc en France, notamment donc en Guyane. Et du coup, il n'y a pas forcément de contrôle. On ne sait pas ce qui rentre, on ne sait pas du tout comment les produits sont faits là-bas. Mais il faut aussi savoir que la production aujourd'hui des producteurs de Marie-Passoula et à Marie-Passoula n'est pas suffisante par rapport à la demande des consommateurs. Donc il y aura forcément des produits qui seront importés. En tout cas, l'idée, c'est de promouvoir les produits de Marie-Passoula et des produits de producteurs marie-passouliens. Donc on travaille vraiment pour ça et pour que Marie-Passoula puisse quand même être autonome dans les années à venir en termes de production agricole.
Un pôle agricole et un système de transport en commun pour les agriculteurs devraient bientôt voir le jour à Marie-Passoula. Un projet décidé suite à un diagnostic agraire réalisé sur la commune en 2016 qui a identifié les freins au développement de la filière agricole, à savoir le transport et le manque d'accès aux subventions et aux fonciers. Mais concernant le foncier, les choses pourraient changer. Damien Dévy est anthropologue au CNRS.
On dit souvent, et à juste titre, que le foncier de la Guyane est à quasiment 90% possédé par l'État. Mais bon, quand c'est pour l'État, ça veut dire évidemment que ça appartient aux citoyens. Mais donc il y a des volontés aujourd'hui de rétrocession de la terre aux Amérindiens. Donc là, il y a eu des événements sociaux l'année dernière, les accords de Guyane en 2017 ont acté que l'État allait rétrocéder 400 000 hectares au peuple amérindien et 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes. Et ça, c'est quand même assez historique, puisque je rappelle quand même que l'État français ne peut pas reconnaître de par sa constitution l'autochtonie, ou alors il faudrait qu'il change l'article 1 de la constitution. Mais il n'empêche que ces 400 000 sont un début de reconnaissance d'une spécificité de ces cultures. Et la terre, c'est très important dans leurs revendications jusqu'à aujourd'hui parce que ça permet le maintien justement d'une culture et notamment de ces pratiques précieuses que sont les savoirs autour de l'agriculture itinérante sur brûlis qui sont encore transmis aujourd'hui par les communautés. Et dans le sud Guyane, chez les Wayana de la commune de Maripasoula, comme chez les Amérindiens Wayampi et Teco de la commune de Camopi, qui sont donc sur le Yapok, hein, avec la frontière du Brésil, eh bien là, on a des populations qui continuent annuellement, chaque famille ouvre un abatis. Et donc, du coup, maintiennent aussi des relations entre des familles, des pratiques culturelles, bien sûr des spécificités culinaires et un savoir plus large sur l'agrobiodiversité qui est assez extraordinaire.
Maripasoula est donc à la recherche d'un nouveau modèle agricole. Mais quelle sera la place réservée aux abatis? La sédentarisation des Amérindiens annonce-t-elle leur fin? Faut-il s'en inquiéter? Pierre Christophe est Amérindien et porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane.
En vérité, les abatis, ça a été fait pour s'adapter. C'est-à-dire que le mythe des peuples amazoniens qui sont seulement nomades, ça reste un mythe. Dans la réalité, il y avait des grands villages d'environ 300 000 personnes, des fois avec des systèmes agricoles hyper développés, basés sur la terra preta ou bien sur les champs surélevés. Et du coup, c'est après la colonisation qu'il y a certains groupes amérindiens qui ont du coup réadapté leur système de vie en redevenant nomades. Il y a des problèmes fonciers, des problèmes liés à la terre, etc. À l'accès à la terre, en tout cas, ben, on voit que les abatis ont de moins bons rendements chaque année. Et des fois même, ça ne pousse plus. Donc là, il y a une réflexion à poser justement, puisque maintenant on est redevenu sédentaire. Donc sur quel système on se base? Donc le système de terra preta que nos ancêtres utilisaient, c'est un système qui se repose sur un cocktail, disons, de céramique, cuit, de déchets bio, hein, donc, etc. Et tout ça avec des copeaux de bois qui reposent sur du charbon activé, etc. Et ça donne l'un des sols les plus fertiles au monde, en fait. Donc il faut vraiment poser une réflexion sur... et ne pas avoir peur de changer, parce qu'on change pour quelque chose qui existait déjà avant. Donc c'est un peu dans cette démarche-là qu'on est aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vivre comme avant, mais par contre, il faut garder les valeurs fondamentales de respect envers la terre, etc. L'année dernière, il y a eu les mouvements sociaux. La population guyanaise a faim. On demande quelque part une émancipation. Donc la première chose, c'est l'autonomie alimentaire. Donc c'est dans cette démarche que nous, on souhaite s'inscrire au niveau des Amérindiens et se baser sur les techniques ancestrales qui ont montré leur efficacité. Donc on sait faire ça. On est présent depuis des milliers d'années. On a appris à nos dépens de comment survivre en Amazonie et comment avoir une société qui est pérenne. Donc il faut oser avancer vers l'avenir sans pour autant oublier le passé et ce qui fonctionne en fait.
Réinventer l'agriculture à Maripasoula, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron en partenariat avec l'Union Européenne. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve demain, même planète, même heure. Yeah.